Ouellette, bon. En direct,
avec JC et Patricia.
Radio X.
À midi 53 minutes, re-bienvenue dans Ouellette en direct. En direct de la Grande Allée à Québec, on rejoint notre invité. Il est ex-ministre de l'économie, de l'innovation, de l'énergie, ex-ministre également responsable du développement économique régional de la coalition Avenir Québec. Bref, c'est ce qu'on appelait et qu'on appelle encore un ex-super ministre, Pierre Fitzgibbon, au bout du fil. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Ouellette.
Comment ça va?
Ça va très bien. Ça va très bien.
Comment va la retraite? Êtes-vous à la retraite?
Ben, plus ou moins. J'essaie d'aider le Québec d'une autre façon. Je travaille avec entrepreneurs, un peu de formation, un peu d'investissement. Donc, je me tiens occupé. Mais je travaille en sous-marin.
Oui, mais vous êtes dans les mines, non? C'est ça, hein? Je pense que vous travaillez pour les mines.
Ben, j'ai un mandat pour une société dans le phosphate, mais je fais plusieurs autres. J'ai beaucoup travaillé à l'énergie. L'énergie m'intéresse beaucoup.
Est-ce que le retour à l'anonymat, ça a fait du bien? Parce qu'on vous sentait un peu au bout de la corde, là, disons, en fin de parcours politique.
Ben, en fait, c'est le fun de pouvoir contrôler son agenda. En politique, on est victime un peu, puis c'est normal. Hein? On n'est pas ce public, donc on contrôle pas à qui on fait affaire, on contrôle pas beaucoup de choses. Alors, je reviens un peu dans l'environnement dans lequel j'étais avant dans la politique. Alors, je suis très heureux, mais ça étant dit, j'ai des souvenirs quand même très, très bons de mon passage de 6 ans quand même en politique. Alors, je regrette rien. Là, je suis revenu citoyen normal où je contrôle mon agenda et je contrôle les gens avec qui je veux travailler.
On sentait souvent quand même que la pression, tu sais, l'histoire de la pêche, d'ailleurs, la pêche doit être plus paisible, tu sais, on doit se sentir moins surveillé. Mais ça vous agaçait énormément, tu sais, c'est peut-être quelque chose qui... Est-ce que c'est l'enjeu qui vous a le plus fait travailler, ça, le fait de devoir rendre des comptes à tout le monde tout le temps?
Ben écoutez, je pense que le poste, quand j'ai pris le poste, j'étais quand même, bon, j'étais élu député, ça c'était super valorisant, et le premier ministre m'a accordé des ministères super motivants, et je savais, j'acceptais. Quand on est ministre, il faut rendre des comptes. Alors d'ailleurs, j'ai des entrevues et j'en donnais constamment et j'ai jamais refusé d'entrevue, peu importe à qui je les donnais. C'est sûr que le processus décisionnel, quand on était au gouvernement, est très différent du processus décisionnel dans une entreprise. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on a des impacts importants au niveau sociétal. Alors, j'acceptais qu'il fallait rendre des comptes. Ouais. J'acceptais qu'il fallait...
Au-delà de l'impact sociétal, c'est aussi que vous dépensez notre argent. T'sais, je veux dire, à un moment donné, c'est normal que ça vienne avec une espèce de compte-rendu. Là. On a besoin de savoir à qui, quand et pourquoi. Puis c'est la normalité des choses. J'ai envie de vous parler de votre ancien parti, évidemment. On ne parlera pas de pêche là, pendant 15 minutes. Là, depuis les derniers jours, disons que la CAQ était branlée, départ de François Legault, départ d'autres députés et ministres importants quand même qui ont fait l'histoire de la CAQ. Il y avait aussi des départs avant. C'est un peu la dégringolade. Vous en avez fait partie, mais au tout début, disons, de ce qui commençait à être une désagrégation, une CAQ qui s'effrite. Est-ce que la CAQ, parce que là, j'entends plein d'affaires, la course à la chefferie se prépare. Est-ce que la CAQ, c'est un parti de droite? Parce que là, j'ai Bernard Drainville, Benoît Charrette, Karianne Bourassa, Jean-François Simard qui nous disent qu'ils sont tous à droite, eux autres.
Ben écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que vraiment le nom du parti politique, coalition, ben, fait état effectivement qu'il y a des gens qui viennent de la droite et qui viennent de la gauche. Je pense que deuxièmement, évidemment, on parlait de M. Dumont, l'ADQ. Donc, la CAQ, c'est pas l'ADQ, mais c'est un peu ce qui s'est passé par après. M. Legault, je pense qu'il a bien incarné le fait qu'il était... M. Legault avait deux obsessions. La première, c'est qu'il n'acceptait pas qu'il y ait un écart de richesse entre le Québec et l'Ontario et le Canada.
Il y en a encore un.
Il y en a encore un, mais il est absorbé en partie, mais ça va prendre des générations, là. Alors, c'était son obsession. Puis en même temps, M. Legault voulait absolument protéger la culture québécoise et protéger aussi la langue française. Fait qu'il y avait comme dans son cerveau une épiphanie, si je pourrais dire, qui a fait en sorte que la coalition, je ne sais pas si c'était l'agrégat de personnes qui venaient de différentes factions, si je pourrais dire. Ouais. Puis encore aujourd'hui, alors je pense que ça, c'est positif, la fameuse troisième voie. Certains la voient comme étant une finalité. Moi, je pense que ça doit continuer, mais demain, on va voir ce qui va arriver à l'automne prochain.
Je vais reprendre ma question d'abord. Est-ce que, sans dire que le parti, je comprends que c'est une coalition, pour moi, c'est un peu flou là, d'essayer d'avoir un alignement avec des gens très à gauche puis des gens très à droite. Ça doit pas être pas quelque chose d'évident. Donc, on comprend qu'il y a quelqu'un qui tranchait. Est-ce que la direction de la CAQ a été à droite? Parce que moi, je veux dire, ajouter 10 000 fonctionnaires, augmenter le salaire de tout le monde, faire deux déficits records back-à-back, rajouter des étages de bureaucratie avec Santé Québec puis l'Agence du transport, puis on pense à d'autres agences. Fait, pour moi, ça, c'est pas économiquement très à droite. Vous, votre lecture, non, c'est quoi?
Vous avez raison. Puis je pense qu'une chose qu'il faut pas perdre de vue, hein, c'est que la pandémie a changé beaucoup de choses. Je pense que le gouvernement, M. Legault, en arrivant au pouvoir, en 2018, était carrément à droite, focus économie, rendre l'État performant, créer de la richesse collective qu'on avait besoin parce que nos infrastructures étaient déficientes, système de santé déficient. Donc, pour offrir des meilleurs services, ça prend de la richesse. Donc, je pense que, clairement, au début, c'était un gouvernement qui était plus porté à droite. Mais en même temps, est arrivée la pandémie. Veux pas, il fallait être, on avait le nez au plancher, il fallait s'occuper de la population, il y avait une crise épouvantable. Puis en même temps, bien, je pense que M. Legault était soucieux du côté culturel, du côté de la perte de langue française. Donc, c'est pas seulement à gauche de dire qu'on veut protéger la langue, mais il y a eu des mesures qui ont été prises qui étaient pas nécessairement à droite, qui était requise par le moment présent. Alors, c'est sûr qu'il y a eu à mener un espèce de mélange entre les deux. Je pense que M. Legault a toujours gardé son objectif de créer de la richesse, mais en même temps, il y avait des pressions sociales importantes qui, peut-être, le ramenaient plus à gauche.
Oui, mais je veux dire, tu sais, Santé Québec, rien de la pandémie a dicté la voie ou a tracé une voie obligatoire vers Santé Québec. Je veux dire, on aurait pu aussi privatiser la direction des hôpitaux. On aurait pu prendre des mesures aussi efficaces, sinon peut-être plus, ça c'est mon avis, en prenant des décisions à droite économiquement. Et surtout, c'est que c'est pas ça que vous nous avez vendu. Moi, j'ai un extrait ici de François Legault qui n'est pas encore élu. Puis d'ailleurs, vous y avez écrit une lettre, un genre de lettre hommage ce matin dans la presse, où vous l'encensez, puis vous dites qu'il a fait un beau boulot. Moi, le François Legault pour qui j'ai voté en 2018, je vous le fais écouter, c'est celui-là.
Il devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a, avec les taux d'impôts les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis actuellement, pour avoir été là pendant un certain nombre d'années, je sais que certains, quelques dogmatiques, empêchent ce développement.
Fait que j'aimerais comprendre comment vous m'expliquez le lien entre ce discours-là et pourquoi ça ne s'appliquait pas à cause d'une pandémie.
Parce que là, on parle du pétrole. Là, je pense que...
On parle de ça, pourquoi on a voté en 2018. C'était ça, le programme.
Non, je comprends, mais le programme en 2018, j'ai entendu l'entrevue. Là, je ne m'en rappelle pas cette entrevue-là, mais on parlait de pétrole ici. Là, non, je ne pense pas que le programme de la CAQ en 2018, c'était d'exploiter le pétrole. Et ce qui est passé, par contre...
Ça nous a amené vers la filière batterie, M. Fitzgibbon. C'est parce que si on ne fait pas du pétrole, on fait autre chose. Là, et on a choisi autre chose.
Et je pense que c'est la bonne décision. Et je pense que le temps va... Absolument. Le temps va... On vous a vu M. Carney cette semaine en Chine. Je pense que ces filières-là ou ces projets-là structurants demandent des années. Alors, moi, ce que j'ai voulu écrire hier, c'est qu'il y a eu des échecs. Northvolt, clairement, est un échec. Mais je regarde le monde s'en va là. Le baril de pétrole, dans 15 ans, va être à 5 $, il ne sera pas exploitable. Alors là, je pense que la décision du gouvernement de dire nous avons des ressources naturelles, minéraux critiques, la transition énergétique, ça va être la pierre angulaire de la relation avec la Chine, je pense, pour pouvoir bénéficier au Québec, il y a des avantages compétitifs importants. Alors, je pense que faut laisser passer le temps pour pouvoir juger. Ouais. Moi, je suis d'opinion que les décisions ont été prises dans ce dossier-là qui ont été des bonnes.
Ouais, là, vous avez ressorti votre boule de cristal en me disant que dans quelques années, le gaz ou le pétrole sera à 5 $ le litre. C'est ça que vous venez de dire?
Ben, je dis, ce que je disais par là, c'est qu'il y a des gens qui disent ça aujourd'hui, le Goldman Sachs. Je pense que...
Vous nous aviez dit que Nordvolt, ça serait vraiment le futur, là.
Oui, mais je pense que la filière, l'électrification de l'économie va être le futur et le Québec va se distinguer par rapport à sa compétitivité, alors par rapport à ses compétiteurs, je m'excuse. Alors moi, je pense que c'est un bon axe de développement économique. On voit l'importance du Québec va avoir dans l'énergie propre. Alors moi, je pense que ça va être un avantage concurrentiel important pour le Québec qui va nous distinguer et créer de la richesse éventuellement.
Est-ce que demain matin, on a encore l'occasion de Nordvolt? Est-ce que vous refaites ça?
Absolument.
Vous êtes sérieux?
Absolument.
Vous me dites en ondes que, sachant tout ce qu'on sait, vous re-signez Nordvolt?
Bien, si Nordvolt, on ne risque pas de passer, là. On n'est pas dans ça.
Non, mais une autre compagnie arrive avec un produit pas fini, une start-up avec un truc en développement, puis vous re-signez une autre affaire où on perd encore un 500 millions, là.
Moi, c'est pas une start-up. Ça fait 15 ans que ça existait, là, puis je ne suis pas d'accord avec vous, mais écoutez, d'avoir des investissements étrangers qui vont prendre nos ressources naturelles, les exploiter, les convertir en amont, absolument, il faut profiter de ce qu'on a comme ressources pour créer de la richesse.
Mais pourquoi ces compagnies-là ne viennent pas si on ne leur donne pas des chèques? Si les métaux sont là, les produits sont là, les matériaux, la main-d'œuvre est qualifiée, pourquoi faut dérouler des tapis d'argent pour que ces compagnies-là viennent oser daigner peut-être faire quelque chose chez nous?
Il faut vous regarder, monsieur, en effet, de la Ville de Québec, ce qui se passe au niveau du développement économique. C'est le modèle. Le modèle, c'est que les gouvernements, tout confondu, américains, chinois ou autres, veulent attirer des sociétés qui peuvent créer de la richesse en s'appuyant sur les ressources qui existent. Alors, au Québec, on a la chance d'avoir les minéraux critiques, d'avoir les terres rares, d'avoir de l'électricité. Alors, c'est un avantage comparatif. Alors, faut les sociétés encourager à venir ici exploiter ça, faire des nouvelles technologies. On n'a pas nécessairement l'expertise. Alors, on peut apprendre. Regardez ce qui se passe avec Airbus Mirabel au Québec. On a développé, il y a 4000 employés qui travaillent là, qui ont développé une expertise. On a profité, dans ce cas-là, de premièrement, Bombardier à l'époque qui avait créé l'avion, évidemment, mais Airbus, qui a des technologies assez avancées pour produire des avions. Puis aujourd'hui, on est capable d'avoir une industrie qui est porteuse, qui crée d'autres ramifications. Alors, je pense que le concept des clusters requiert que les gouvernements, peu importe lesquels, veuillent attirer des entreprises à venir s'établir.
Vous me parlez d'Airbus, c'est bien, mais on a quand même 400 millions d'argent public là-dedans. Là.
Oui, mais il y a 4000 employés. Il peut y avoir plus de voitures Mercedes dans le stationnement d'Airbus qu'il y a chez Silverstar à Montréal. Il y a la richesse qui est créée par ça aussi. Là. Il y a des gens qui profitent de ça, qui gagnent des bons revenus.
Donc, pour vous, un État gargantuesque qui maintient puis qui dirige l'économie, ça, c'est une bonne chose. Vous, en tant qu'homme d'affaires, mettons, privé, vous aimez ça, vous, là, un gouvernement qui choisit les gagnants, qui dit « Lyon électrique, ça va être ça », puis si vous achetez vos autobus ailleurs, vous allez avoir des pénalités, puis vous allez payer des surfrais. Pour vous, ça, c'est un modèle viable pour l'épanouissement du privé en économie, là.
Écoutez, je pense qu'une approche libertarienne,
bon, allô,
où on laisse...
Ouais. Il y a un entre-deux, je pense.
Ben, vous me posez une question.
Oh, oui, allez-y.
Non, oui.
Oui, allez-y.
Alors, une approche libertarienne où on met en place, on laisse le monde décider ce qu'ils vont faire, je pense, dans un contexte où le Québec est pauvre, entre guillemets, par rapport à d'autres juridictions, le gouvernement doit avoir un certain niveau d'intervention. Maintenant, vous avez dit que le gouvernement décide tout, la réponse c'est non, le gouvernement ne peut pas tout décider. Mais je pense qu'il y a des... Il y a une politique, il y a une approche qui est solide de dire nous allons développer des secteurs industriels. Donc, M. Legault avait le concept des zones d'innovation. Donc, quels sont les secteurs où nous avons un avantage comparatif et profitons de ces secteurs-là pour pouvoir avoir des investissements étrangers, avoir des investissements qui vont faire qu'on va bâtir un noir. Alors, je pense que l'aéronautique, c'est un exemple. Le quantique à Sherbrooke, c'est un exemple. La microélectronique, on parle de la filière d'électrification, transition énergétique à Bécancourt. Je pense que c'est des secteurs qui requièrent que le gouvernement intervienne. Après ça, on va laisser l'industrie développer ses capacités, puis on va laisser les joueurs trouver leur niche. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le gouvernement qui décide tout, mais je pense qu'à la base, le gouvernement a besoin d'intervenir pour promouvoir des secteurs où nous avons un avantage comparatif.
Mais promouvoir, c'est une chose, mais puis je reviens sur le terme parce que je le trouve important, là. Choisir les gagnants, c'en est une autre. Il y a beaucoup de compagnies, puis il y a des gens qui nous écoutent puis qui nous écrivent à tous les jours pour dire, écoutez, nous, on a une petite PME et la grosse compagnie qui débarque va nous nuire énormément. Et on trouve que le gouvernement en fait pas beaucoup pour le moteur, le vrai moteur économique du Québec, c'est-à-dire nos PME, nos petites et moyennes entreprises au Québec, qui, bon an, mal an, sont pas mal celles qui font vivre l'économie du Québec. Et vous leur envoyez des géants qui débarquent dans leurs pattes. Et je comprends, vous allez me dire des meilleurs salaires, puis c'est de l'économie, puis on en veut plus. Puis... Mais encore là, en quoi est-ce que le gouvernement est un bon arbitre? Et l'exemple de Northvolt est bon. D'ailleurs, dans votre texte, vous dites que c'est un bel échec. J'ai de la misère à la comprendre, celle-là. En plus, vous la mettez dans la bouche de René Lévesque. Je ne suis pas sûr que René Lévesque est d'accord, là, mais il est décédé. En quoi est-ce qu'un bel échec comme ça peut aider nos PME? Pourquoi le gouvernement n'agit pas justement en promotion puis en facilitant? Je peux être d'accord. Tu sais, vous me dites libertarien. Il y a un entre-deux, je pense. Là. On peut aussi créer un nid agréable pour les compagnies qui viennent avec pas trop d'impôts, pas trop de contraintes, sans être obligé de toujours sortir le chéquier à coups de centaines de millions, non?
Mais vraiment, je suis complètement en désaccord avec vous sur le fait que vous ayez dit que on ne s'est pas occupé des PME. Si vous regardez le gouvernement de M. Legault jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'interventions,
oui, c'est beaucoup,
dans les PME du Québec, c'est un niveau qui n'a jamais été atteint dans le passé. Alors, je pense que c'est faux de dire que le gouvernement a délaissé les PME, au contraire.
Donc, on flobait des deux bords.
Pardon?
On flobait des deux bords.
Alors, donc, pour vous, c'est flobait de l'argent de mettre dans les PME. On n'est pas d'accord?
Non, mais c'est parce que vous vouliez contrôler l'économie au complet. C'est un peu ça?
Non, pas du tout. Les PME ont besoin de support. On les a aidés. On les a beaucoup aidés. On a été critiqués durant la pandémie de ne pas en avoir fait assez, des gens comme vous, là, pas en avoir fait assez pour les PME. Comme ça, on est critiqués, on a trop fait. Alors, à un moment donné, faut choisir quel bord on va être.
Je ne dis pas que vous en avez fait pas assez ou pas trop fait, mais c'est que vous me dites, on a beaucoup de grosses entreprises qui sont venues de s'établir. Vous me parlez d'Airbus, puis de compagnies de batterie, puis étrangères, puis on a beaucoup de capital qui vient avec ça. Puis, on a beaucoup aidé les PME. Nous, les PME nous écrivaient, nous disaient, oui, mais ils nous amènent de la compétition. Donc, OK, vous les avez aidés, mais vous c'est une espèce de cercle là, où le gouvernement finit au milieu et il contrôle à peu près tout ce qui se passe, non?
Non, pas du tout.
Non?
Je comprends pas du tout votre argument. Okay. Airbus, qui emploie 4000 personnes à Mirabel, produit des A220, série 1, série 3, ça enlève quoi aux PME du Québec en aéronautique? Au contraire. Au contraire, ça leur permet d'évoluer parce que la chaîne d'approvisionnement est très, très grosse. Alors moi, j'ai de la misère à vous suivre, je m'excuse.
Bon, ben c'est pas grave, on va changer de sujet. Vous me parlez de l'Ontario, puis dans votre lettre, vous avez écrit ça, là, l'Ontario n'a pas dormi au volant de leur économie, on a simplement mieux fait. Je pense que c'est pas tous les économistes qui sont d'accord. J'ai la croissance du PIB réel qui a ralenti quand même beaucoup à partir de 2022 en Ontario. On est passé de 3,9% à 1,2% en 2023. Et le reste, je pense, ça s'est tenu en bas du 1%. Donc, l'Ontario, oui, a fléchi beaucoup. Le PIB par habitant a diminué de 0,7% entre 2019 et 2024. Et on n'a pas retrouvé le niveau d'avant la pandémie encore en Ontario. Donc, sans vous donner tort totalement, mais l'Ontario a quand même mis un genou à terre.
Oui, mais il y a des gens intelligents là-bas aussi. Moi, ce que je disais, c'est que un des éléments qu'on peut utiliser pour mesurer la richesse collective, c'est le fameux PIB par habitant. Mm-hmm. Et de ce critère-là, puis les gens reconnaissent que c'est un critère important. C'est pas le seul, je suis d'accord avec vous. Dans ce critère-là, ben, on était à 16-17 % d'écart en 2018, puis on est rendu, je pense, à 12 ou 13 %.
On est à 13 %.
Il y a encore beaucoup à faire. Il n'y a aucun doute, il y a encore beaucoup à faire, mais de changer cette tendance-là aurait guéri des choses. Puis il y a eu des supports au PME, des supports à l'innovation. Puis bon, l'Ontario a baissé. Bien, ils ont baissé pas parce qu'ils ont, ils ont voulu baisser. Ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient. Donc, il y avait un terroir fertile. Puis je pense que les gestes posés par le gouvernement Legault ont été bons, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, il n'y a aucun doute.
Est-ce qu'il y a du travail à faire sur l'inflation? On le voit à chaque fois que les chiffres de l'inflation sortent, le Québec tire le Canada par en bas. Est-ce qu'on se remercie pour la bourse carbone?
Ben, tu sais, l'inflation, je réponds différemment à votre question, si vous me permettez. Là, premièrement, je pense que l'enjeu numéro un que le Québec et le Canada fait face présentement, c'est la sous-productivité. On a parlé beaucoup de ça, là, puis je pense que l'investissement en innovation, autant les grosses entreprises que les PME, c'est important parce que si on n'est pas productif, ben on n'est pas compétitif. Donc, les prix locaux sont dispendieux, on a beaucoup d'importations, on est prêt à exporter. Alors, je pense que l'inflation, on peut faire. La façon de le régler, c'est qu'il faut que nos entreprises québécoises soient plus productives. Puis ça, c'était un des enjeux qui date depuis 15, 20, 30 ans. Là. Alors, est-ce qu'il est réglé aujourd'hui? Non, il n'est pas réglé, c'est sûr. Mais je pense qu'on... Moi, j'ai mis en place la stratégie québécoise de la recherche en innovation. Donc, on promouvoit l'innovation en entreprise. On promouvoit l'investissement additionnel. Là, je pense qu'on est chanceux parce que le réveil américain nous force à faire ça. On voit M. Carney qui se promène partout dans le monde. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, on est pris dans un carcan. On n'a pas le choix. La complaisance que nous avons eue avec un dollar canadien faible a fait en sorte qu'on était, on disait complaisant, puis on n'a pas investi collectivement. Je parle depuis 15-20 ans. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que souvent, on a les jalons en place pour corriger ça. Parce que l'inflation, c'est un enjeu qui touche les gens à court terme. Vous avez absolument raison.
Est-ce qu'avec le recul, vous vous êtes trouvé trop... Tu sais, on parle d'un... trop interventionniste comme gouvernement, mais vous, avez-vous été trop subventionniste? T'sais, on pense à Taïga, Nordvol, Lyon Électrique, le panier bleu, Flying Whale, 75 millions, toujours pas d'usine, recyclage carbone Varenne, 222 millions, Polycor, 98 millions, une usine de luzerne à Bécancour, 20 millions. Est-ce que vous avez, t'sais, avec le recul, là, quand on fait un bilan, est-ce qu'il y a eu trop de subventions parce que cet argent-là est parti, là, on ne la reverra plus, là? Ce sont des gens qui ont... Il y en a là-dedans qui ont fait faillite, il y en a qui sont sur le bord, puis il y en a qui ça va pas très bien, là.
Non, mais écoutez, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre aussi, là. Vous donnez des cas qui n'ont pas bien été, mais il y a un paquet de cas qui ont bien été.
Ça vaudrait jusqu'à 5 milliards. Fait que c'est sûr qu'il faut poser la question quand même. La question reste légitime.
Écoutez, le gouvernement a été... On a changé l'approche pour aider les entreprises avec ce qu'on appelle les prêts pardon. Donc, on fait beaucoup de subventions à posteriori quand les choses sont faites. Moi, je pense que quand on regarde l'intervention des gouvernements depuis des générations, on est dans la même lignée. Alors, moi, je pense que non. Comme je dis tantôt, il faut qu'il y ait un niveau d'intervention. Et quand on prend des risques additionnels, parce qu'il y a des gains additionnels, ben il y a des pertes additionnelles aussi. On parle pas, par exemple, de chantier Davis. Je pense à lui, là, perdu dans votre fenêtre, là, l'autre bord de
l'autre. Ouais, mais chantier Davis, dont les contrats viennent du public. C'est le fédéral qui achète des bateaux.
Non, mais écoutez, le chantier Davis n'a jamais été considéré par le gouvernement fédéral comme un chantier naval national. Donc, c'est depuis quelques années, parce qu'il y a eu une agressivité de la part du financement du gouvernement du Québec pour optimiser leur...
D'abord, j'ai envie de vous revirer la question de l'autre bord. Tu sais, quelles sont les entreprises auxquelles ça value vraiment
la peine?
Des
grands succès dont on n'a pas parlé.
Parce que vous dites qu'on n'en parle pas, ben je vous laisse...
Chantier Davis, Minéraux de fer Québec, où je pense que l'investissement à Québec a fait son plus grand profit de 400-500 millions de profits. Alors, il y en a plusieurs, là, je ne sais pas tout dans la tête.
Tantôt, vous avez dit, je vais complètement changer gauche, mais c'est parce que je l'ai noté. T'sais, tantôt, vous avez dit, vous êtes, ben, je ne sais pas si vous êtes plus heureux, mais t'sais, en fait, vous êtes heureux de pouvoir contrôler les gens avec qui vous travaillez désormais. Puis là, j'ai fait, est-ce que le fait de devoir obligatoirement travailler avec des gens quand vous étiez à la CAQ, là, c'était vraiment un irritant majeur pour vous, tu sais, de ne pas avoir pouvoir dire, ben ça, ça va être mon équipe, tu sais, au privé, vous pouvez aller faire former votre équipe, travailler avec les gens, engager les gens que vous voulez, sinon, ben ça fera pas, puis je m'en vais. Tu sais, la CAQ a quand même un devoir pour quelques années, là, de servir la population. Est-ce que c'est un irritant majeur, ça, de travailler avec du monde qui n'était pas votre choix à vous?
Non, parce que dans l'entreprise privée, on a la même chose. Premièrement, la CAQ, je me suis joint à la CAQ parce que j'aimais M. Legault, je respectais. On a parlé de son plan, j'étais d'accord avec son plan. Beaucoup des candidats à l'époque, je les connaissais aussi ou je les ai connus durant l'été 2018. Donc, je ne suis pas arrivé là carrément dans l'inconnu. Il y a beaucoup de monde que je connaissais.
Comme prochain chef de la CAQ...
C'était ça, puis je pense qu'on va conclure avec ça. Là. C'était aussi ma question, parce que je m'en allais là. Ouais, voulez-vous vous mouiller? Avez-vous une préférence entre vos anciens collègues? Présentement, on a pas mal juste deux noms sur la liste, mais je vous élargis. Mettons, vous avez le choix de piger dans le bassin. Là.
Écoutez, j'ai des vues très précises sur ça. Je suis en discussion avec quelques-uns d'ailleurs, mais je ne me mouillerai pas en public. Je vais garder ça pour moi.
Pas vous, là?
Non, pas moi.
Portez-vous toujours un petit col roulé? Vous avez dit qu'il fallait porter un col roulé à un moment donné, puis je me suis toujours demandé si vous le portiez encore, le col roulé.
J'ai jamais eu le col roulé.
Ah, OK, c'est bon. Bon, mais parfait, parce que vous avez dit, à un moment donné, vous revenez de la Chine, puis que la température de la pièce, on pouvait mettre ça plus froid, fait qu'on avait juste à porter un col roulé. Est-ce que vous en souvenez quand vous avez dit ça?
Ben, je parlais de chandail, là, mais effectivement, puis moi depuis... Depuis quelques années, j'essaie de ne pas chauffer mes calorifères l'hiver. Puis quand on est à la maison le soir et il fait 18, ben, on met un chandail, puis on part le chauffage, puis on consomme moins d'électricité. Alors, je suis cohérent avec ce que j'avais dit à l'époque.
Mais d'après moi, si on compare nos maisons, moi, je peux chauffer à 28 tout l'hiver, puis on ne s'accotera pas. Là.
Enfin, c'est bon. Tant mieux pour vous.
Et pour vous, merci, M. Fitzgibbon, d'avoir accepté l'invitation. Puis je vous souhaite une bonne simili-retraite.
Merci.
Au plaisir. Oh, bon, il avait hâte de partir. Fitzgibbon, ex-ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, ministre responsable. Je suis pas sûr que le col roulé...
Je m'excuse.
C'est une bonne finale, mais bon. C'est une question qui se pose.
Ben, il le dit. Non, mais on parle tout le temps de ça.
Il nous avait dit de mettre un col roulé.
Oui. Mm. Non, mais on l'a en entrevue.
Non, mais il tient ça.
J'en ai un col roulé aujourd'hui.
Mm. 13h20, on va faire une pause.
Je m'excuse.
On vient.
Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.